faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Mais laisse-moi une gueule d'atmosphère.
Voilà, la musique.
Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot.
Là, il a marqué un point.
C'est de dire si dans ma vie, j'ai entendu des conneries. Il est comme ça, jamais.
À l'affiche ce soir, c'est l'histoire d'une superstar du sport, mais totalement oubliée. Celle d'un cycliste qui a ouvert le chemin aux athlètes noirs américains. Ce soir, c'est le récit d'une fusée sur son vélo. Qui se souvient du Major Taylor ? Entre Indianapolis et Paris, voici la 22e étape de notre grand safari au pays de la culture de masse.
Il nous prend pour des bourris ?
Oui, yeah, ça papa.
Ça, c'est un excellent burger.
Winter is coming.
Cette nuit, à Atlanta, aura lieu le Super Bowl, la finale du championnat de football américain, dans un climat étrange où plane la lutte de Colin Kaepernick, le quarterback noir de peau et honni par l'Amérique trumpiste, un combat contre le racisme entamé il y a très longtemps dans le sport américain par un cycliste aujourd'hui disparu des mémoires, le fantastique Marshall Walter Taylor. Et bien ce soir, pour raviver le souvenir de ce champion afro-américain hors norme, trois invités au micro d'Inter, tout d'abord, et les journalistes, grand reporter à l'équipe, Céline Noni, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous. Et puis à vos côtés, un duo de théâtre. D'abord, l'auteur d'une pièce intitulée Le Nègre Volant, consacrée au Major Taylor, Denis Chabroulé, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi. Vous êtes en compagnie de votre comédienne qui interprète sur scène Sydney, la fille de Taylor, Karine Gia, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue à vous aussi, bien sûr. Et puis, juste avant le cyclone de l'Indiana, nous aurons le Zéphyr de Normandie, le Dominique Besnéard. Dominique, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, au programme ce soir.
L'inspiratrice des rousses célèbres français, Marlène Jobert, Sabine Alema, Shirley MacLaine.
Qui n'était pas rousse, elle.
Elle est devenue rousse. Hein.
D'accord. Et puis, évidemment, avant 19h, le Give Me Five, Joy Raffin. Salut, Joy.
Salut, Colin. Bonsoir à tous.
Au programme.
Du jus de cornichon sur des cours de tennis à des burgers à la Maison Blanche. Moi, ce soir, il y en a pour tous les goûts, Colin.
Eh bien, parfait. À tout à l'heure. Surtout, n'ayez pas peur et soyez les bienvenus dans l'œil du tigre.
L'œil du tigre. Philippe Collin sur France Inter.
Alors, ce soir, on commence avec ce 53e Super Bowl. Ce sera donc cette nuit à Atlanta, une finale entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Rams de Los Angeles. À la mi-temps, une grande kermesse, comme d'habitude, même si cette année, l'affiche s'annonce un peu plus cheap que d'habitude. Voici le flashback.
Ladies and gentlemen, Radio City Music Hall Productions and the National Football League proudly present an unprecedented Super Bowl spectacular starring Michael Jackson.
Le football américain attire la foule des spectateurs. À l'origine, c'était une variation du rugby britannique. Mais depuis 1873, il a évolué en un jeu purement américain.
Une image qui nous provient des États-Unis, celle de la chanteuse Beyoncé, qui a littéralement électrisé le spectacle de la mi-temps du Super Bowl.
Deux équipes de 11 joueurs chacune essaient de marquer des points en passant le ballon derrière la ligne de but de leurs adversaires, ou de l'envoyer par-dessus la barre transversale des buts à chaque extrémité du terrain.
To honor America and perform our national anthem. Please
alors,
welcome
surprise.
Three-time Grammy winner, Pink.
Elle est là, Pink, pour chanter l'hymne américain. Ce n'était pas gagné d'avance car elle a été victime d'une petite grippe. Mais on va l'écouter chanter l'hymne américain.
Oh, say, can you see by the dawn's early light what so bright.
Avant 1895, ce jeu n'était joué que par des amateurs, en général par les élèves des collèges et des universités. Mais depuis, le football américain a été adopté par les professionnels. En tout cas, amateurs ou professionnels, ce jeu enthousiasme les foules sportives.
Le 53e Super Bowl sera diffusé cette nuit sur beIN Sport et sur TF1, c'est-à-dire gratuitement pour la première fois, à partir de 00h30 et à la mi-temps, vous aurez les Maroon 5. Voilà, à chaque époque, c'est vedette. Restons en Amérique avec le mémorialiste des vedettes. C'est l'heure du Dominique Besnéard.
C'est fou la vie.
Ce soir, Dominique, son apparition fut remarquée.
Dans les années 50, ses taches de rousseur, son nez impertinent et ses longues jambes rendirent soudain démodés les canons hollywoodiens du sex-appeal. Shirley MacLaine est peut-être la plus singulière des actrices américaines. Issue d'une famille d'artistes, son frère est le comédien Warren Beatty, Shirley MacLaine arrive à New York à l'âge de 17 ans. Elle débute au musical à Broadway comme fille de chœur et doublure, notamment celle de Carol Haney dans Picnic en pyjama.
Et c'est lors d'une représentation de ce spectacle, Dominique, qu'elle est remarquée par Alfred Hitchcock.
Le réalisateur l'engage aussitôt pour son premier rôle au cinéma dans « Mais qui a tué Harry ?». À son propos, Hitchcock déclare avec humour « C'est une femme tellement volcanique qu'elle ferait pâlir de honte l'Etna et le Stromboli réunis. » Shirley MacLaine possède un jeu novateur, à la fois naturel et plus stylé, une capacité rare à mêler le rire aux larmes. C'est en 1958, avec « Comme un torrent » de Vincente Minnelli, que Shirley impose un nouveau style d'héroïne. Si son personnage est encore marqué par les stéréotypes misogynes, l'actrice rend la petite Ginny profondément humaine, composant une fille paumée, plus attendrissante que vulgaire et pathétique.
Et Shirley MacLaine a séduit son monde.
Elle est extraordinaire sous la direction des grands metteurs en scène comme Robert Wise ou Jack Cardiff et brille aussi aux côtés de grands interprètes comme Maurice Chevalier et Frank Sinatra dans Cancan et avec Robert Mitchum dans Deux sur la balançoire ou encore Yves Montand dans My Geisha et bien sûr, on n'oubliera pas de sitôt la gaffeuse suicidaire de la garçonnière de Billy Wilder, son meilleur rôle. Shirley MacLaine offre son visage à des portraits de femmes souvent de mauvaise vie, insuffle à ses héroïnes son caractère fougueux et fait d'elle de véritables reines. Elle a aussi profondément ancré en elle un sentiment de liberté. Elle vit ainsi loin de son époux et de leur fille Saki, et entretient des liaisons avec la plupart de ses partenaires, comme Robert Mitchum et l'incontournable Yves Montand, décidément.
Et oui, mais elle est aussi capable de dire non, Dominique.
Indépendante et anticonformiste, elle refuse Diamant sur canapé en 1961 pour accepter le rôle casse-gueule d'une institutrice lesbienne dans La Rumeur de William Wyler. Saisie par le démon de la politique, Shirley devient une ardente militante du Parti démocrate. Elle se découvre également une vocation pour la littérature et néglige quelque peu le cinéma. Elle renoue alors avec le musical et remporte un succès sans précédent dans un show composé de numéros dansés et chantés autour des films de son répertoire comme Irma la Douce et Sweet Charity.
Et Shirley MacLaine ne revient sur les écrans qu'en 1977.
Avec un rôle dans le tournant de la vie de Herbert Ross. 6 ans plus tard, sa prestation dans Tendre Passion aux côtés de Jack Nicholson lui vaut l'Oscar de la meilleure actrice. Très directe et parfois même à l'emporte-pièce dans le travail, Shirley MacLaine est la plus originale des actrices hollywoodiennes. Et je laisse le mot de la fin à Billy Wilder, son metteur en scène fétiche. Elle est à mes yeux la plus extraordinaire, le summum des actrices. Elle trouve toujours le ton juste.
Et bien voici Shirley MacLaine, chanteuse. C'était au Palace en 76.
The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see.
Quelle voix extraordinaire, Shirley MacLaine. que vous pouvez voir sur les écrans de la Cinémathèque française à Paris dans le cadre de cette rétrospective consacrée à Billy Wilder. Ça dure encore toute la semaine qui vient. Profitez-en. Tu l'as déjà rencontré?
Ouais, j'ai rencontré avec Jean-Claude Brialy. Elle chante au Casino de Paris. C'est la dernière fois qu'elle est venue en France. J'étais étonné parce que la salle n'était pas pleine, quand même incroyable. Et j'étais avec Brialy, Colette Renard est arrivée, la créatrice d'Irma la Douce, et le mec voulait pas la laisser passer. Il l'avait pas reconnue, et elle l'a reconnue, et Charlie McLean dit, mais c'est Colette Renard, je lui dois tout. Et voilà.
Donc magnifique, voilà. Magnifique. Merci beaucoup, Dominique Besnéard. À la semaine prochaine, voici maintenant l'histoire du dimanche soir. À l'aube du XXe siècle, en 1899, il fut l'homme le plus rapide du monde sur un vélo. Une prouesse et un champion rare. Avec une spécificité toute particulière pour l'époque, Marshall Walter Taylor était noir de peau. Oui, athlète afro-américain totalement sorti des mémoires, il est pourtant celui qui a ouvert le chemin à Jesse Owens, Michael Jordan ou Tiger Woods. Un coureur cycliste sur piste qui fut une superstar du sport. Alors voici notre mission du soir, le faire renaître dans nos esprits. Souvenons-nous du Major Taylor.
Le 21 juin 1932, Marshall Walter Taylor, dit Major Taylor, s'éteint à Chicago à 53 ans. Il est l'un des plus grands cyclistes afro-américains dont la légende s'est construite en Europe. À l'âge de 12 ans, il reçoit son premier vélo d'un propriétaire de magasin de cycles pour faire des acrobaties en uniforme de soldat, d'où son surnom Major. L'année suivante, il remporte en amateur une première course et deux ans plus tard, bat un premier record. À 18 ans, il devient professionnel. Mais une véritable carrière en Amérique est impossible pour un noir. Malgré la ségrégation, Major Taylor enchaîne les performances. En 1898 et 1899, il cumule 14 records du monde. Ses victoires se succèdent jusqu'au championnat du monde à Montréal, où son exploit est sacré par un titre mondial. Le premier à être obtenu par un Afro-Américain.
Premier professionnel, hein, puisqu'il y a un boxeur qui a précédé, évidemment, le Major Taylor. Céline Noni, rebonsoir, vous êtes grand reporter à l'Équipe, journal dans lequel vous avez publié cet été un très bel article, très beau portrait consacré au Major Taylor. En quelques mots, Céline, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui vous dirait « mais qui c'est ça, le Major Taylor ? Je ne sais pas du tout qui c'est ».
Je ne savais d'ailleurs pas du tout qui c'était avant de m'intéresser à ce personnage. Que dire du Major Taylor ? Que c'est vraiment un précurseur, un pionnier d'un point de vue purement sportif. Dans son sport, dans le cyclisme sur piste, ça reste une référence. Et surtout, c'est un personnage qui a vécu toute sa vie une histoire qui pourrait avoir quelques résonances aujourd'hui, à savoir la ségrégation aux États-Unis, le racisme, les insultes, les menaces de mort. Et en même temps, c'est le premier sportif noir américain à avoir et à s'être construit une carrière internationale.
C'était une superstar, on va y revenir, on l'a oublié, c'était une superstar absolument. Denis Chaboulet, vous êtes-vous metteur en scène de théâtre, l'auteur du Nègre volant, qui était le surnom en France à l'époque du Major Taylor, on va y revenir. En quelques mots, Denis, pour commencer, qu'est-ce qui vous inspire, ce Major Taylor ?
Oh, la première chose qui m'inspire, c'est la résistance. Major Taylor était un noir et pas de chance pour lui, c'est que il y a eu l'abolition de l'esclavage, mais après est né tout de suite le Ku Klux Klan. Et donc, il a vécu à côté du Ku Klux Klan, et le Ku Klux Klan, c'est quand même quelque chose d'assez violent, d'assez fort, d'assez raciste. Il n'y a pas de mots pour ça, quoi. Donc, à partir de là, il a dû se battre constamment pour exister. Il pouvait pas aller dans les mêmes hôtels que les blancs, etc., etc., etc. Non, c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie. Bon, après, évidemment, les choses ont certainement mal tourné comme beaucoup de stars. Jusqu'en 1909, 1910, il a fait une très grande carrière. C'est vrai qu'il a fait l'Australie, l'Europe et puis les États-Unis. Et il y a tellement de choses à dire sur ce personnage. En plus, c'était pas un personnage indifférent, c'est-à-dire que c'était aussi un artiste. C'est quelqu'un qui, quand il arrivait dans un hôtel, notamment quand il était à Paris, au Sydney, qui existe toujours rue des Mathurins, il se mettait au piano et il chantait. C'était quelqu'un qui avait une éducation merveilleuse, qui savait faire plein de choses.
Un esthète, un esthète.
Oui.
Karine Gia, pardon, vous êtes-vous sur la scène de ce théâtre écrit par Denis Chabrolet, vous jouez Sydney.
Oui.
Alors, qui est Sydney et quel message portait-elle? Parce qu'elle est morte il n'y a pas si longtemps en plus.
C'est vrai. Alors, effectivement, on raconte l'histoire de Major Taylor, mais en passant par sa fille, voilà, Sydney. Donc, voilà, c'est un solo et c'est en fait par sa fille que je porte l'histoire de mon père.
Qui est morte au centenaire en 2005.
Voilà, absolument, tout à fait, donc assez proche. Et
qu'est-ce qu'il incarne pour vous, le Major Taylor?
Alors, pour moi, donc, c'est une pièce qui très vite, une histoire qui très vite m'a beaucoup touchée, happée, portée. Je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement inspirant. Et c'est une histoire qui évolue énormément. Donc, on a parfois des personnes qui le voient plusieurs fois et puis qui disent, bah, on dirait que c'est pas la même histoire. Ah, vous avez changé. Voilà, parce qu'il y a quelque chose, je trouve, de vivant, en fait. Voilà, je trouve quelque chose vraiment de vivant dans l'histoire de Major Taylor et qui, moi-même, m'inspire, me fait évoluer. Voilà, m'a fait évoluer. Et voilà, cette résistance, cette passion.
Je précise, vous êtes d'origine camerounaise.
Oui.
Nous sommes à la radio, on ne vous voit pas, vous êtes d'origine camerounaise, c'est important de le préciser aussi, vous êtes d'origine camerounaise.
Je suis d'origine camerounaise.
Absolument, absolument.
Ouais.
Céline, on va revenir un tout petit peu au début, il est né en 1878, dans le Midwest, des parents pauvres, fermiers, très pieux, ils ont 8 enfants.
C'est un peu des baptistes.
Des baptistes, voilà, c'est un peu la mouise, et pour compenser un peu le salaire, le père de Major Taylor est cocher pour une famille riche, et là c'est la chance de Marshall Taylor. Qu'est-ce que c'est que cette famille, qu'est-ce qu'elle va lui apporter?
En fait, il a 7 frères et sœurs, Major Taylor, et alors qu'il a 8 ans, effectivement, en fait, il est placé dans cette famille qui emploie son père comme cocher. Et la famille a un enfant qui a un garçon qui a le même âge.
Qui s'appelle Daniel, je crois.
Qui s'appelle Daniel, exactement. Et en fait, pendant 5 ans, Major Taylor va vivre avec cette famille, va avoir la même éducation que l'enfant, les mêmes jeux, et ça aura une importance énorme dans sa vie plus tard, parce que d'une certaine manière, ça abolit chez lui ce qu'est le noir et le blanc. Il n'a pas la même...
Il n'y a pas la frontière.
Il n'y a pas la frontière pour lui. Il grandit avec cet enfant, et ça a une importance capitale quand ça se termine, c'est-à-dire que la famille va déménager.
Elle va à Chicago.
Elle va à Chicago et en partant, offre à Major Taylor son premier vélo.
Eh oui, comme cadeau d'adieu.
Comme cadeau d'adieu.
Qui est un objet précieux à l'époque, on lui offre une bicyclette.
Exactement.
Et il va en faire le vecteur de sa vie pour transformer son destin.
Au début, c'est un jeu, réellement. Il va apprendre à s'en servir, mais alors plutôt pour faire des acrobaties, pas du tout pour en faire
de la
du
compétition.
Vélo de course et de la compétition. D'ailleurs, ça viendra beaucoup plus tard.
Un peu plus tard. D'ailleurs, son surnom de Major Taylor vient du fait qu'on lui a mis un costume militaire pour faire des acrobaties. C'est un publiciste marchand de cycles. Et donc, il faisait des acrobaties, genre sans les mains, la roue arrière, dans un uniforme de militaire, et donc le surnom, le Major Taylor, c'est de là que ça vient.
Exactement.
Denis Chabrolet, ensuite, on va faire des raccourcis, il se retrouve comme mécanicien embauché dans une industrie de cycle. Là, il y a un monsieur qui s'appelle Louis Birdie Munger, qui est un ancien pistard, et qui va mettre finalement sur la voie du vélo notre ami Major Taylor. C'est lui qui va le lancer dans la course, en fait.
Absolument, oui, il se rencontre un jour, lui il est tout jeune, il est complètement fou, parce que Munger, c'est une star, c'est vraiment un grand coureur, et il a devant lui ce grand coureur, et Munger, il décide de le prendre avec lui et puis en fait de l'éduquer, de lui donner une éducation cycliste. Et d'un seul coup, il se met et il s'aperçoit très vite qu'il a du talent, quoi, qu'il est très bon, qu'il
un grand potentiel,
un gros potentiel. Donc à partir de là, bon bah c'est le départ pour Major Taylor et le départ d'une grande carrière. Ça c'est clair. Hein.
Karine Gial, l'époque, faut pas l'oublier, le contexte. On en parlait tout à l'heure avec Denis. C'est une époque de ségrégation. Dans la pièce, vous racontez qu'entre 1890 et 1900, il y a 1217 lynchages répertoriés. Ça veut dire quasiment un lynchage tous les trois jours. C'est la coutume, hein, quasiment aux États-Unis. Et il doit se battre, lui, parce que même dans le peloton, par exemple, on l'empêche. Il est noir, donc on l'empêche. Il doit faire la course devant, parce qu'il doit se battre tout le temps. C'est très
tout
important
temps,
d'avoir
tout
ça.
Tout le temps, il y a énormément d'agressions contre lui, dont y compris des agressions physiques.
Physique, pas que verbales.
Et même en Australie, qui est moins raciste théoriquement, il y a un coureur qui, effectivement, l'agresse, le fait tomber sur la piste, on lui interdit effectivement le chasse des hôtels, on l'empêche d'avoir accès à de la nourriture, donc il est vraiment porté pour réussir à continuer ce combat à ce point-là, c'est qu'il y a vraiment une puissance en lui, en fait, qui le fait dépasser tout le racisme. Et puis, comme vous expliquiez, Céline, c'est le fait que, justement, il ne se voit pas comme noir. Il se voit tout simplement comme un être
comme
humain.
Comme un être humain. Qui, voilà, veut, qui a envie qui de vivre ses rêves. Faire des courses et, qui veut et gagner. Et gagner comme les Blancs,
voilà, en fait. Qui veut réaliser les mêmes exploits.
Absolument.
Il
n'y
a pas de filtre, quoi.
Céline, en 1899, c'est une des grandes dates de la vie de Major Taylor. On est à Montréal et il devient donc champion du monde de vélo sur piste. Qui est un titre historique, Céline, parce que c'est le premier athlète noir professionnel à avoir ce titre champion du monde. C'est aujourd'hui, on a oublié ça, mais c'est majeur dans l'histoire du sport américain et mondial, quasiment.
Alors, bizarrement, dans l'histoire du sport américain, ils l'ont oublié, mais pendant très, très, très longtemps. C'est-à-dire que Major Taylor, il faut aussi se souvenir qu'à l'époque, le cyclisme sur piste est... non pas seulement un sport, mais un spectacle absolument incroyable dans le monde entier. Les vélodromes sont pleins quand il y a les 6 jours au Madison Square Garden. C'est 5000 personnes qui restent pendant 6 jours assis sur leur siège pour encourager ces cyclistes.
Il faut dire qu'à l'époque, en plus, il n'y a pas la voiture, il n'y a pas l'avion. La vitesse, c'est le vélo. L'homme le plus rapide du
monde
est sur un vélo. Donc ce sont des superstars, c'est les hommes les plus rapides. Il n'y a pas la voiture, il n'y a pas la
Formule 1. D'autant que, justement, avant les championnats du monde de 1899, il a déjà plusieurs records du monde. Mais, parce que c'est un noir, il a été d'abord freiné par les Américains qui ne voulaient pas l'intégrer à l'équipe nationale. Et effectivement, quand il gagne ce titre mondial, ça a une répercussion, notamment dans les pays où le cyclisme sur piste est important. En France, par exemple. Maintenant, c'est vrai aussi que ça reste aujourd'hui important parce que finalement, dans ce sport-là, il n'y en a eu qu'un de noir à avoir remporté le titre mondial. Et il a fallu attendre pour ça 2009 et un Français, Grégory Baugé.
Oui, qui est d'origine de Guadeloupéenne, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et lui, il croyait être le premier
exactement.
Noir à être champion du monde. Et on lui a appris que non, puisqu'il y avait Major Taylor qui a disparu des mémoires. Mais non, Grégory, tu as une performance incroyable, mais il y a eu un noir avant toi à gagner ce titre-là.
C'est assez et d'ailleurs, c'est assez amusant parce qu'en fait, il l'a su parce qu'on lui a envoyé des messages pour lui dire, mais surtout, on lui a envoyé la biographie, les États-Unis. Quelqu'un aux États-Unis lui a envoyé la biographie de Major Taylor et c'est comme ça qu'il a réellement découvert ce personnage, même si, c'est vrai, le technicien de l'équipe de France est un passionné d'histoire et avait un petit peu raconté qui était le personnage.
Bien sûr. Denis Chapoulet, il y a une sorte d'anecdote aussi un peu cynique, mais le chiffre 13 porte la poisse, donc les Blancs lui ont confié ce chiffre-là comme dossard. Il avait le numéro 13 être poissard.
Oui.
Et il en a fait un truc assez à l'envers. Il a pris ça comme un défi, comme sa vie. Oui. Dès qu'il descendait dans un hôtel, il voulait la chambre numéro 13. C'est-à-dire qu'il essaie de retourner ça. Vous voulez donner le 13, mais vous allez voir, je suis plus fort quand même.
Oui.
C'est une leçon de la vie quand même.
C'est ça. C'est ce que je dis. C'est un résistant. Il s'est toujours battu et il s'est rattaché à beaucoup de choses. Il faut dire aussi que c'était quelqu'un de très religieux.
Très pieux.
C'est-à-dire très pieux. Et il avait promis à sa mère de jamais faire de vélo le dimanche. Et il n'a jamais fait de vélo le dimanche parce que...
Une fois, il avait beaucoup
d'argent. Mais après, l'argent lui manquait. Dans les années 1910, il n'avait plus d'argent. D'ailleurs, à l'époque, il était en Australie. Il n'avait pas d'argent pour reprendre le bateau. Et donc, d'un seul coup, il a trahi. Comme il dit, j'ai trahi ma mère. J'ai commencé à faire du vélo le dimanche. Voilà.
On peut même penser, alors je sais pas, c'est un peu cynique aussi peut-être, mais 1900, il n'a pas le titre de champion du monde parce que la course est organisée un dimanche. Donc on pourrait aussi penser que les Blancs ont mis la course le dimanche, sachant qu'ils ne courraient pas le dimanche. Et du coup, c'est un Français qui a le titre de champion du monde cette année-là, je crois.
Edmond Jacquelin.
Et du coup, mais il ne peut pas défendre son titre puisque étant pieux, il ne peut pas courir le dimanche.
Il y a un autre aspect d'ailleurs à ce moment-là, c'est que aux États-Unis, il y a un cycliste américain. Extrêmement raciste et qui a créé une ligue, une fédération annexe qui donc interdit
les Noirs
et interdit donc à Major Taylor de courir.
Alors, les 18h34 sur Inter, on va écouter le disque, mais après, vous aurez droit à une lecture en direct de Karine Gia, du spectacle écrit par Denis Chabroulet, où nous évoquerons notamment l'arrivée de la superstar Major Taylor à Paris, à la gare Saint-Lazare. Vous verrez, on a oublié ça, mais il y a des centaines d'articles dans la presse de l'époque. Quand il arrive à la gare Saint-Lazare par le port de Cherbourg, c'est une immense star qui déboule en France. Juste après le disque, donc, nous aurons une lecture en direct de Karine Gia. Pour l'instant, donc, c'est l'heure de l'orchestre, emmené ce soir par Aurel San. Le titre joué, la fête est finie, ainsi soit-il.
Un jour tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un de tes fantasmes, mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Un jour tu t'écrases et t'atterris dans la vraie vie. T'es plus vieux que ton père sur des photos de quand t'étais petit. Un jour tu te sens perdu dans les fêtes de famille. Leurs portables sont pleins de photos de gosses, toi t'as que des photos de gamines. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La demande qui c'est ce gros porc dans la glace. C'est pourquoi tu t'essouffles alors que t'as monté trois marches. Un jour ton pote traîne qu'avec ses collègues de ta have. Pourtant c'est le genre de connard que vous détestiez en classe. Un jour tu te rends compte que personne n'écoute tes histoires. T'étais un jeune cool, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre. Un jour t'as beaucoup plus de remords que désir. Et t'as passé trois mois de stress pour 30 minutes de plaisir. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La t'es censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait? On était censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait?
L'œil du tigre.
Depuis l'année 1903, les Parisiens étaient dotés d'un vélodrome d'hiver. Pas celui qui porte aujourd'hui le nom de Palais des Sports. Non, mais un vélodrome d'hiver installé dans l'immense galerie des machines, vestige de l'exposition de 1900, construite au Champ de Mars face à l'école militaire.
Philippe Collin.
Le cyclisme sur piste connaissait une grande vogue. Les vélodromes affichaient depuis quelques années déjà des programmes importants. Sprint et épreuve derrière moto étaient très prisés des spectateurs.
Sur France Inter.
Au début du XXe siècle, l'une des grandes vedettes mondiales du cyclisme sur piste s'appelait Marshall Taylor, surnommé Major Taylor. Totalement oublié aujourd'hui, et pourtant il fut le premier athlète professionnel américain noir de peau à devenir champion du monde, c'était en 1899. Deux ans plus tard, après avoir traversé l'Atlantique sur un paquebot, pour se lancer dans une tournée de courses cyclistes européennes, Marshall Taylor débarque en France.
En arrivant en gare Saint-Lazare, Taylor découvre avec étonnement qu'il est une superstar. Les journalistes l'accueillent comme un roi. Le peuple l'acclame à la descente du train. On le reconnaît dans la rue. On veut absolument lui serrer la main. Oh, give me your hand, give me your hand, give me your hand. Les journalistes l'acclament. Paris est en effervescence. On salue son double combat, sur la piste et dans la vie. Son premier dimanche, il le passe à l'église anglicane. L'après-midi, dans les allées du Bois de Boulogne, il est très étonné de voir autant de bicyclettes et d'automobiles se croiser. Le soir, à son hôtel, il donne une interview au journaliste de l'auto-vélo. Il prend place devant le piano du salon et se met à improviser de sa voix chaleureuse. Mon père aimait beaucoup la musique. Il jouait aussi de la mandoline. Les journalistes et tout le personnel de l'hôtel sont aux anges. Le lendemain soir, toute l'équipe de l'auto-vélo l'emmène au cirque, voir le clown Chocolat, le seul noir célèbre à Paris à cette époque-là. Chocolat interrompt son spectacle pour saluer sa présence. Tous les visages se tournent vers Taylor. Le rêve continue. Major est tellement ému. Oh, vive Major! Vive Major! Crient les spectateurs venus par centaines le voir s'entraîner au Parc des Princes. Les chapeaux se lèvent à chaque fois qu'il donne un coup de pédale. C'est de la folie! Je suppose que les Français avaient besoin de cela.
Merci. Magnifique lecture en direct. Merci à Karine Gia pour cette lecture de cet extrait du Nègre volant, qui est une pièce signée Denis Chabroulet, que vous pourrez voir le mercredi 20 février à 20h30 au théâtre de la Mezzanine, à Lieusaint en Seine-et-Marne. Denis, en effet, avant même son arrivée à Paris, dont on vient de comprendre ici la stature, c'est une immense star mondiale qui arrive par Cherbourg puis la gare Saint-Lazare. On l'acclame comme un héros.
Comme un héros, absolument. Et il est ravi de voir qu'on l'attendait au train. Et toutes les personnes qui étaient là, des centaines de personnes, ils sont avec lui, ils l'accompagnent jusqu'à son hôtel. Et ça, c'est quelque chose c'est le pays des droits de l'homme, la France, quand même. Donc, il découvre que tout le monde n'est pas raciste. Mais ça ne veut pas dire aux États-Unis que tout le monde le détestait, au contraire. C'était une star aussi aux États-Unis, mais c'était 50-50. Enfin, quand il arrive en France, comme il dit d'ailleurs, c'est ça seconde patrie, la France, et surtout Paris. Alors là, il commence une tournée assez exceptionnelle. Je crois qu'il a fait une cinquantaine de combats dans tous les pays, en Hollande, en France, et même à Agen. Parce qu'il y avait un vélodrome à l'époque. C'est incroyable quand même qu'il n'existe plus. Donc, en Allemagne, en Suisse, etc., en Belgique, et en plus, ce personnage a gagné 40 fois sur 50 fois. Donc, il a pratiquement gagné
tout,
le temps. Sauf un Danois qui était quand même, je crois, le plus fort, qui s'appelait Elgard, et qui l'a battu, je crois. Mais sinon, pour lui, ça a été vraiment une grande révélation, parce que c'était un grand champion et qu'on l'aimait. Et ça lui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien.
Céline Noni, je rappelle, donc vous êtes grand reporter à l'équipe. Vous avez publié, c'était un très beau portrait consacré au Major Taylor. Il faut quand même comprendre, quand il arrive ici, il a une classe absolue, il est très bien vêtu, et tout le monde se l'arrache. Toute la haute société parisienne veut voir le Major Taylor. Il visite le Louvre, je crois, il demande à visiter le Louvre, il est très heureux de le faire. Enfin, on se l'arrache.
On n'imaginait pas, puisque c'est vrai quand même qu'on a quelques relents du colonialisme en France. Donc,
on l'appelle le nègre volant. Hein,
le nègre volant, bon, à la fois, on a un côté comme ça un peu paternaliste. C'est vrai qu'on l'admire beaucoup, et en même temps, bon... On ne sait pas bien si ce ne serait pas un sauvage anthropophage. Les articles sont assez tendancieux par moments, mais il y a quand même cette admiration absolue et cet étonnement de découvrir quelqu'un avec de très belles manières, qui est toujours très bien habillé. Les photos montrent qu'il est toujours avec un grand manteau noir. C'est quelqu'un qui est extrêmement élégant, quelqu'un qui sait se tenir en société. Il a été élevé dans une famille blanche, donc c'est quelque chose qui pour lui est naturel. Et il est étonné d'ailleurs, pas d'avoir déguisé autant la curiosité, d'être invité partout, mais plus que les gens quand même le dévisagent, et que ce soit dans la rue, que ce soit au musée, dans les restaurants. Et il a cette phrase à un moment, il dit mais vous avez jamais vu de noir à Paris?
Oui, il n'y a peut-être pas de noir comme lui, en tout cas. Sûrement pas, exactement. Denis Chabroulet, jusqu'en 1910, voilà, il aura cette carrière de tournée mondiale, Paris, qu'évoquait Céline, mais aussi la Nouvelle-Zélande, l'Australie, où va naître Sydney, sa fille, que joue Karine Gia, évidemment. 1910, il arrête sa carrière, et là va commencer quand même une longue descente aux enfers, absolument, beaucoup d'échecs, de souffrances, de misère. Sa mort est assez tragique, d'ailleurs, Denis.
Oui, à partir de 1910, d'abord, il avait grossi, il a pris 10 kilos, etc. Ça se dégradait avec sa femme. Bon, il s'est passé tout un tas de choses. En plus, il avait beaucoup d'argent, et il a fondé une société en 1914, la compagnie Major Taylor, où, à l'époque, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, c'était le vélo, la vitesse, mais la voiture arrivait. Et il y avait un dilemme très difficile, c'était est-ce qu'on fait des pneus en métal ou est-ce qu'on fait des pneus en caoutchouc ? Et lui, il a choisi le pneu en métal. Malheureusement, il n'y a aucun pneu qui est sorti de son usine. Donc, patatras, plus rien, il a fait faillite, etc., etc. Et là, vraiment, c'était la descente aux enfers qui continuait. Ensuite, après, il a monté une société d'huile, une raffinerie, et puis avec cette raffinerie, ça n'a pas fonctionné, pas du tout, il a encore fait faillite, et puis après, dans les années 1920, il a monté un garage pour réparer des voitures, et puis bon, ça s'est pas fait, puis après, il est tombé malade, faut pas l'oublier, et il est tombé malade, il a eu le zona, donc ça coûtait très très cher à l'époque de se faire soigner, donc il a vendu ses maisons, il a vendu ses terrains, il a tout vendu pour se soigner, résultat, désaccord avec sa femme, avec sa fille, il devenait de plus en plus aigre. Et puis voilà, une star qui tombe effectivement dans les enfers. Et ça a été terrible jusqu'à la fin. Oui.
Et Karine, il meurt seul, indigent, et il est enterré dans la fosse commune. C'est terrible, la fin est terrible.
Ouais, la fin est très dure.
Oui.
Et il avait tout de même écrit ses mémoires pour justement essayer de transmettre tout son combat, tout ce qu'il avait appris, tous ses exploits aux jeunes noirs, et puis à tout le monde, mais notamment aux jeunes noirs pour les aider à croire en eux. Et bon, son livre n'a pas marché. Et à la fin, effectivement, il finit par quitter sa femme et sa fille, et par partir seul avec sa voiture, vendre son livre.
Et il meurt ruiné en 1932 un hôpital de charité à Chicago. Céline Noni, pourquoi on en parle ce soir ? Tout le monde doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? On connaît pas ce mec. Est-ce qu'ils sont pas en train de faire un canular à la radio ? Il a jamais existé, c'est Major Taylor, c'est n'importe quoi. Pourquoi il a disparu des mémoires américaines et européennes ? Ce type n'existe plus dans les radars. Est-ce qu'on sait pourquoi ?
Alors, il a disparu pendant longtemps. Mm-hmm. C'est vrai que... alors j'ai eu la chance de discuter avec son biographe officiel, Andrew Ritchie,
qui est anglais,
qui a vécu aux États-Unis, qui s'est passionné pour cette histoire-là. Il a découvert ce nom en 75 et il aura mis un peu plus de 10 ans à écrire la biographie qui est sortie en 88. Et d'ailleurs inspiré beaucoup des échanges qu'il a eu avec Sidney, qu'il a rencontré jusqu'à ses 101 ans.
Elle est décédée
à 101 ans. Mm-hmm. Et donc lui m'expliquait une chose assez simple. Il a arrêté le sport en 1910. Derrière, il y a quand même eu la guerre. Et après la guerre, les États-Unis se sont passionnés pour d'autres sports, des sports typiquement américains. Et c'est là seulement qu'on a commencé à se créer des idoles noires américaines, avec Jesse Owens, avec Robinson,
le baseballeur.
Effectivement. Là, ils se sont créés un imaginaire du sport noir américain. Et en fait, Major Taylor, on l'a totalement oublié. Et il est ressorti, au début des années 80. Il y a une journaliste aussi qui s'est énormément intéressée à lui et qui a d'ailleurs créé une association, Major Taylor, qui aujourd'hui ouvre des écoles
partout sur le territoire, dans tout le pays,
et qui essaye de véhiculer... toute cette bataille, toute cette bagarre, toute cette envie qu'il a eue d'exister malgré sa couleur de peau.
Denis Chabroulet, je sais que vous êtes passionné de théâtre, évidemment, mais aussi de cyclisme.
Absolument.
Vous aimez beaucoup, beaucoup ce sport.
Oui.
Comment il est arrivé jusqu'à vous, ce Major Taylor ? Comment vous l'avez rencontré ? C'est quoi le destin qui ramène ce cycliste dans la tête de Denis Chabroulet ?
Parce que l'histoire du cyclisme m'intéresse. Donc, quand on lit l'histoire du cyclisme depuis 1900, en plus 1900 c'était les débuts du Tour de France, Major Taylor est incontournable. Alors évidemment, j'étais tenté de le lire, et puis après j'ai pensé tout de suite à Karine, qui est camerounaise, et je me suis dit, mais bien sûr, voilà ce qu'il faut faire, c'est écrire la vie de Major Taylor, la raconter avec Karine. Et voilà, ça s'est fait. Mais ce spectacle a été monté il y a 15 ans, en fait. Il y a 15 ans.
D'accord.
Et il a été tourné, en fait, c'est un spectacle d'appartement. On arrive chez les gens, on pose notre guéridon, et puis Karine donne le spectacle. Bon, maintenant, il est joué en salle, petite jauge, etc. Mais c'est un spectacle d'appartement.
Intimiste.
Et ça, c'est une volonté.
Un spectacle polyglotte aussi.
Absolument.
Vous allez en Italie, par exemple.
Oui,
vous jouez en italien,
un
grand pays du vélo, évidemment, en Italie.
Absolument.
Et vous le jouez en italien également.
Oui, absolument.
Et les États-Unis, alors, peut-être ?
On n'y a pas pensé, mais il faudrait qu'on s'en occupe. C'est une question de temps.
Et... Non, parce qu'ils ont l'air très actifs là aux États-Unis sur la mémoire. C'est ils en parlaient, donc je pense que ça peut les intéresser d'avoir une une pièce d'appartement. En plus, vous imaginez, il y a New York, Manhattan, Brooklyn, appartement,
le soir,
vous pourriez jouer avec l'œil du tigre. Ça nous ferait des stickers partout à New York. Ce serait merveilleux. Céline, ce soir, il y a le Super Bowl aux États-Unis. Hein. C'est un moment très important de la vie américaine dans une époque où Donald Trump est président des États-Unis avec Colin Kaepernick. Hein, qui est donc un quarterback noir de peau qui a donc plus d'équipe aujourd'hui puisqu'il a posé le genou à terre lors de l'hymne national américain pour protester contre les violences policières faites aux populations afro-américaines. Tout d'un coup, on se dit, mais oui, le lien entre Major Taylor et Colin Kaepernick, il est tout à fait réel. Il pourrait aussi s'appuyer beaucoup sur l'image aujourd'hui en États-Unis de ce Major Taylor.
La seule petite différence, c'est que Theodore Roosevelt était un très grand fan de Major Taylor, à la différence de Donald Trump avec Kaepernick.
Ça, c'est très important de le dire.
Parce qu'effectivement, à l'époque, il y avait vraiment une... Bon, c'est le cas aussi aujourd'hui, il y a une vraie division aux États-Unis entre ceux qui soutiennent Kaepernick ou pas, et comme c'était le cas à l'époque pour Major Taylor. Mais effectivement, c'est pour ça tout à l'heure que je disais qu'il y a... C'est une histoire qui peut continuer à inspirer l'Amérique d'aujourd'hui et qui a des résonances encore aujourd'hui.
Denis Chebroulet, un mot ? Oui.
Moi, je pense que s'il a été... On a pu parler de lui pendant 40 ans, je crois, 40 ans un peu. C'est parce que c'était volontaire. C'est qu'on ne voulait pas parler de lui. C'était un noir, il était champion, il n'était pas question. Le Ku Klux Klan existait toujours et il existe toujours beaucoup moins fort. Mais je pense que c'était volontaire. Après, il y a eu en 1948, il a été exhumé et il a eu une tombe. On l'a remis dans une tombe à Indianapolis. Et après, il y a eu, comme on dit, en 1982 et après, il y a eu ce livre. Mais en 1982, il y a eu le Vélodrome d'Indianapolis et ça porte son nom, Major Taylor.
Oui, aujourd'hui, donc, le Vélodrome s'appelle Indianapolis, le Major Taylor.
Donc voilà, c'est vrai qu'on reparle de lui et bon, c'est bien, c'est normal, c'est une belle revanche.
Merci à vous trois d'être venus ce soir pour raviver le souvenir du Major Taylor, immense champion du XXe siècle qu'il faut garder en mémoire. Je précise donc que la pièce de Denis Chabroulet avec Karine Gia, Le Nègre Volant, sera jouée mercredi 20 février à 20h30 et le lendemain à 14h30 au Théâtre de la Mezzanine à Lieusaint en Seine-et-Marne, et que vous retrouvez la plume évidemment de Céline dans l'équipe ou l'équipe magazine Grand Reporter dans ce très bon journal. Merci à vous trois, ne quittez pas l'écoute car voici le Give Me Five de Joy Raffin.
L'œil du tigre.
Rebonsoir Joy.
Eh bien rebonsoir Colin, rebonsoir à tous.
Alors que trouve-t-on dans ce Give Me Five ce soir ?
Eh bien on en a un peu parlé dans l'émission. Ce soir sera diffusé gratuitement à la télévision française l'un des événements sportifs les plus regardés dans le monde entier, le Super Bowl. Le Super Bowl qui opposera donc l'équipe des New England Patriots aux Los Angeles Rams. Mais peut-être que cette année le spectacle sera en fait sur le bord du terrain. Parce que pour la première fois de l'histoire, deux pom-pom boys seront Pom-pom Girls.
Et voilà. Oui.
Quinton Piron et Napoleon Genies, les premiers cheerleaders masculins de l'histoire de la NFL, donc la Ligue de foot américain, sont nés. Ils sont danseurs, ils ont été retenus pour intégrer l'équipe de Pom-pom Girls des Rams en mars dernier. Alors jusque-là, il y avait des hommes intégrés aux équipes de Pom-pom Girls, mais ils étaient cantonnés aux coulisses, on ne les voyait jamais déjà, puis chargés d'aider les filles dans la constitution des chorégraphies, des portées, des cascades. Et bien là, ce soir, non. Quinton et Napoleon porteront leur tenue de cheerleaders et feront bien partie du spectacle. Alors qu'est-ce qu'on dit, Colin ?
Oui.
Hein ?
Big up. Une initiative qui va bouger les lignes et je pense que Trump va adorer. Quoi d'autre, Joy, ce soir ?
C'est sûr, on sait qu'il va se régaler. Ouais. Je vous avais déjà parlé ici du racisme qui se fait trop régulièrement entendre dans les stades de foot italiens où les joueurs noirs sont hués de cris de singe ou se voient attaqués par des projectiles, comme des pots de banane par exemple. Eh bien, mercredi dernier, la Fédération italienne de foot a pris une grande décision. Enfin, déjà, elle a pris une décision tout court, ce qui est bien, et a pris une grande décision. En cas de cri ou de comportement raciste signalé par les responsables en fait de l'ordre public dans le stade, le match sera immédiatement arrêté. Voilà, de façon temporaire, et les joueurs seront tous réunis au milieu du terrain. Donc là, il y aura alors une annonce faite par le speaker, le jeu arrêté. Et en cas de deuxième signalisation, si les gens n'ont pas compris, là, tous les joueurs rentreront au vestiaire et le match pourra être totalement interrompu. Donc croisons les doigts pour que ça calme les esprits malveillants et que ça fasse évoluer les mentalités. En attendant, c'est assez rare pour le souligner, bien joué la Fédé.
Absolument. Et sinon, une nouvelle boisson fait fureur chez les sportifs et tu tenais à nous en parler.
Colin, tu aimes les cornichons, hein?
Oui, j'aime bien ça, les cornichons.
Ben, c'est bien. On connaissait la passion des footballeurs pour le maté, cette boisson argentine bue dans une calebasse. Eh bien, les tennismen ont visiblement, eux aussi, trouvé leur stimulant. Aux internationaux de Melbourne, une drôle de boisson a fait son apparition sur les cours. Donc, elle le sait, parce que c'est dans l'équipe mag. Donc, le pickle juice comprenait le jus de cornichon. L'espoir montant du tennis américain Frances Tiafoe ou Dimitri Medvedev, par exemple, ont été vus en train de consommer cette curieuse mixture avant ou pendant leur match, assurant que ça les aidait à reprendre des forces et à se sentir beaucoup mieux ensuite. Puis il y a une étude scientifique américaine, publiée donc dans le magazine L'Équipe cette semaine, qui confirme les impressions des tennismen, Colin. La consommation de pickle juice réduirait les crampes de 50% grâce aux vertus du sodium, du potassium, des vitamines C, E et du vinaigre. De plus, le pickle juice apporte au corps le sel que le corps a perdu pendant l'effort sportif et ça régule le taux de sucre dans le sang. Voilà. Alors bon, dernière question, est-ce que c'est bon? Non, c'est immonde. Selon John Millman, le tennisman, c'est vraiment immonde, mais c'est efficace. Et alors, si vous n'êtes pas très sportif, sachez que le pickle juice serait très efficace aussi contre les gueules de bois.
Eh ben tiens, pickle juice, donc jus de cornichon. Sport et gastronomie, toujours aux États-Unis, Joy.
Oui, alors gastronomie, bien sûr. La semaine passée, alors que le président américain recevait, comme à l'accoutumée, les Clemson Tigers, soit l'équipe vainqueur du championnat de football américain universitaire, Donald leur a offert un menu dont il était très fier. Un menu composé intégralement de fast-food.
Et oui.
Des fast-food venus de toutes les plus grandes chaînes américaines, burgers, nuggets et frites à gogo pour les sportifs. Tout ça à la Maison Blanche, un repas de champion. Voilà, alors l'explication selon Trump, c'est que privé de son personnel à cause du shutdown, bien sûr c'est pas de sa faute le shutdown, le président s'est justifié en expliquant qu'il offrait à ses sportifs un repas 100% américain. Voilà. Bon alors bon, après tout, c'est peut-être pas si bête parce que dans les hamburgers, il y a des cornichons.
Et pour finir, ouais. Joy, ton conseil culturel du jour.
Eh bien, il s'agit d'une initiative orchestrée par l'INA, l'Institut National Audiovisuel, qui organise ce jeudi 7 février à 20h au cinéma Beauregard à Paris. On vous mettra toutes les infos sur le site. Un cycle de conférences consacré au sport, alors intitulé pour ce coup-là, Le sport, terrain de tous les excès, splendeur et sottise. Alors le principe de cette soirée, pour commenter les archives sur les thèmes sélectionnés par l'INA, les intervenants de choix seront là. Donc il y aura par exemple Marie-Évangée Épée, Christelle Bonnet, Philippe Brunel ou Fabien Archambault.
Notre ami Fabien Archambault.
Que des copains de la Utudigre.
Historien du sport.
Donc voilà, ils sont là pour commenter de grandes archives sportives. Donc en guise d'avant-goût, écoutons le très en verbe, vous allez voir. Alain Mimoun, champion français le plus titré, qui revient sur son titre de champion olympique du marathon, c'était à Melbourne en 1956.
Il y avait deux motards australiens, je me rappelle, un à droite et un à gauche, et j'étais au milieu. Et les motards faisaient que me dire « very good Johnny ». Je me suis dit « very good, ça doit être bon ça hein ». Et puis voilà la porte de l'entrée du stade qui se présente sous le porche. Je passe sous le porche, une explosion, 120 000 spectateurs. Il me semblait que c'était une bombe atomique qui explosait, vous voyez. Et puis, j'entame mon dernier tour, mais ça a été d'une vitesse fantastique. C'est d'ailleurs le dernier tour le plus rapide de tous les temps. À 100 mètres à peu près, je me suis retourné comme un voleur. Vous voyez, comme ça, pour voir que... Parce que des fois, on est battu dans le stade. Hein. Les marathoniens, on ne sait jamais. Hein. Et je continue. Et je boucle ma boucle, mon dernier 400, en 1 minute 4 secondes. Je coupe le fil et je suis champion olympique.
Voilà, l'excitation, l'émotion, c'est ça aussi, la beauté du geste, donc le sport qu'on adore. Et donc c'est ça, mon conseil culturel du soir.
Oui, et on adore Mimoun, comment il parle de son marathon, il est extraordinaire, extraordinaire. Donc si vous êtes à Paris cette semaine, ne manquez pas donc cette soirée organisée par l'INA, c'est jeudi 7 février à 20h au cinéma Beauregard. Entrée libre sur inscription, les gens sont là pour débattre de ces images d'archives. On vous met toutes les informations sur le site de l'émission. Merci Joy.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Bye. Salut. Et voilà, cette 22e émission de notre saison 4 a été coachée ce soir par l'incontournable H2M, évidemment. Henri Marc Mutel, merci beaucoup à lui, assisté d'Alexandre Chenet. Merci à vous deux. Merci à toute l'équipe de L'Œil du Tigre, Arnaud Jamin, qui prépare cette émission avec moi. Bien sûr, on se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire d'un sport équestre, le saut d'obstacle. Et Pierre Durand, champion olympique avec Japlou en 88, viendra nous expliquer comment on devient un centaure. L'athlète et son cheval. D'ici là, passez une excellente soirée, une excellente semaine. On vous attend dimanche prochain dans L'Œil du Tigre à 18h sur Inter. Salut et fraternité.